Merci Valérie. Donc je vais essayer d'être relativement bref pour essayer de rattraper un petit peu le retard. Donc déjà, je m'excuse parce que vous n'avez pas les supports de notes, parce que je les ai terminés assez tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les envoyer aux organisateurs qui vous les transmettront. Et sinon, je vous donnerai mon adresse email si vous voulez les récupérer directement. Donc je rentrerai pas forcément dans les détails.
On va les mettre en ligne.
D'accord, donc ça sera mis en ligne. Donc vous aurez les détails en ligne. D'abord, je voulais effectivement renchérir sur le fait que le logiciel libre, c'est pas simplement un problème technique, une question technique, c'est avant tout une question politique et philosophique entre bien commun et appropriation privée. Et deuxième point, c'est que le logiciel libre, dans le domaine de l'informatique, abolit de façon assez considérable les frontières entre producteurs de logiciels et utilisateurs de logiciels. Ça crée des liens qui n'existent pas dans le logiciel propriétaire. Donc mon intervention, ça va être sur trois axes très rapides, une présentation du logiciel libre, les principes globaux de production de logiciels libres et le rôle d'Internet dans la production de logiciels libres, dans la diffusion de logiciels libres et son extension dans d'autres domaines. Alors sur la diffusion du logiciel libre, c'est relativement simple. Chez Libre se définit par quatre libertés, qui sont les libertés d'utilisation, d'étude, de modification et de redistribution. Donc si je détaille ces quatre libertés, la liberté d'utilisation, c'est la liberté d'utiliser le logiciel, quels que soient vos besoins et sans restriction. Donc une fois que vous êtes procuré un logiciel libre, que vous l'ayez acheté par exemple dans le commerce, que vous l'ayez téléchargé sur Internet, ou qu'un ami vous en ait fait une copie, vous avez toute liberté de l'utiliser sur votre poste, sur 10 postes, à votre entreprise, dans votre PN, chez vous, etc. Vous n'avez aucune restriction d'utilisation. Si on compare le logiciel libre au logiciel propriétaire, chez le propriétaire tel qu'il est connu, c'est un logiciel dont les libertés d'utilisation sont très encadrées. Vous avez une licence qui dit que vous pouvez utiliser le logiciel sur un poste, par exemple. Si vous l'utilisez sur deux postes, vous devez payer plus cher. Donc ça, c'est la première liberté, c'est la liberté d'utilisation. La deuxième liberté, c'est la liberté d'étude du logiciel. Le logiciel libre vient sous ces deux formes, la forme compréhensible par l'ordinateur et la forme compréhensible par l'être humain, c'est-à-dire la forme sous laquelle l'informaticien a travaillé, ce qu'on appelle le code source. Si vous voulez prendre une analogie, vous pensez à la recette de cuisine. La version que comprend l'ordinateur, c'est le plat cuisiné, la version sur laquelle a travaillé l'auteur, c'est la recette de cuisine, donc ce qu'on appelle le code source. Donc dans le logiciel libre, il vient sous ces deux formes et on peut utiliser son fonctionnement. Donc ça a des intérêts en termes pédagogiques, évidemment, pour comprendre le fonctionnement et pour travailler sur l'informatique, puis ça a des intérêts pour savoir comment fonctionne exactement le logiciel. Mais cette liberté ne serait pas suffisante si on n'avait pas la troisième liberté, qui est la liberté de modifier le logiciel pour l'adapter à ses besoins. En fait, dans l'informatique, il faut bien comprendre qu'on a deux raisons principales pour faire évoluer un logiciel. Un, c'est la correction de bugs, c'est-à-dire les erreurs de programmation dans un logiciel. Tout logiciel a des erreurs de programmation, logiciel propriétaire et logiciel libre. Il y en a peut-être moins dans le logiciel libre, mais il y en a quand même. Donc la correction de bugs. Et la deuxième, c'est le rajout de fonctionnalités. Simplement, un logiciel est un objet fonctionnel qui répond à un besoin. Si on compare il y a 10 ans les traitements de texte à aujourd'hui, il n'y a pas du tout les mêmes fonctionnalités. Donc rajouter des fonctionnalités, c'est la deuxième raison pour laquelle on a besoin de modifier un logiciel. Et on voit que la philosophie de développement du logiciel libre par rapport au logiciel propriétaire, d'un côté, dans le cas du logiciel propriétaire, la correction de bugs et le rajout de fonctionnalités sont décidés par une entité qui est l'éditeur, donc drivé principalement par un marché potentiel. S'il n'y a pas de marché, l'éditeur ne développe pas de fonctionnalités, ne corrige pas de bugs. Dans le cas du logiciel libre, on a un développement qui est basé plutôt sur les besoins, dans lequel en fait n'importe qui peut intervenir. Informaticien, prestataire de services, entreprise, administration. Et quatrième liberté, c'est la redistribution. Ces trois premières libertés, ça vous concernait finalement en interne, quelque part. La dernière, c'est ce qui permet de créer du bien commun, de rajouter sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire on a le droit de redistribuer les versions du logiciel, original ou les versions modifiées. Et donc on voit que le modèle de développement du logiciel libre, c'est on a une sorte de bien commun, de logiciel, dans lequel chacun peut prendre ce qu'il veut, rajouter des pierres à l'édifice, et donc finalement on ne redéveloppe que ce qu'on a besoin. Et ce qui est beaucoup plus efficace en termes de développement. Donc quatre libertés, utilisation, étude, modification et redistribution. Ensuite, sur le mode de production du logiciel libre. Alors si je voulais résumer en une phrase la production du logiciel libre, donc celle-là je l'ai notée, c'est que la production du logiciel libre se distingue par le fait que le dit logiciel est produit en coopération, de manière volontaire, par des communautés de développeurs, bénévoles ou payés par des entreprises, administrations, qui travaillent de manière décentralisée, se coordonnant grâce à Internet. On peut résumer comme ça la production de logiciel libre. Et quelque part, on peut résumer comme ça la production de tout objet sur Internet, finalement, qu'il soit du logiciel libre, des textes, de la musique ou autre chose. Un point essentiel dans la production de logiciel libre, et qui est très différent dans la production d'autres outils, c'est la reconnaissance sur la compétence technique. Dans le cas du développement logiciel libre, la reconnaissance se base sur la compétence technique. C'est-à-dire que le fait que vous soyez un petit développeur, entre guillemets, un chef de projet, patron d'une entreprise, importe peu. Ce qui importe, c'est ce que vous apportez comme contribution technique. Et l'ajout de fonctionnalités, l'ajout de code, se base uniquement sur les contributions techniques. Et notamment, il n'y a pas de contribution, il n'y a pas de contraintes liées au marketing, par exemple. Dans le logiciel libre, on ne dit pas que le 3 décembre 2005, par exemple, sortira la version 2.0 de tel logiciel. La version 2.0 sortira quand elle sera prête. Contrairement au logiciel propriétaire, où souvent, pour des raisons de marketing, on annonce des sorties de logiciels à telle date, et donc les développeurs derrière, ils rament pour programmer le truc, mais comme ils n'ont pas suffisamment de temps pour programmer, la version qui sort à telle date, elle est buggée, et on rentre dans un cycle infernal. Donc on dit qu'un logiciel libre ne sort que quand il est disponible, quand il est prêt. Par contre, comme les versions de développement sont toujours disponibles sur Internet, quelqu'un qui a envie de tester la version de développement peut le télécharger. On dit souvent, dans la mythologie du logiciel libre, il y a quelques années, la mythologie, c'était de dire « c'est pas possible que des gens qui travaillent sur Internet sans réelle coordination arrivent à créer des logiciels qui fonctionnent mieux que les logiciels propriétaires ». Que d'ailleurs, les gens appellent souvent logiciel professionnel. C'est-à-dire que disant que le logiciel libre, c'est logiciel d'amateurs, d'artisans. Il y a des artisans qui produisent du très bon travail, entre guillemets. Et aujourd'hui, la mythologie, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on constate effectivement que ça permet de produire des bons logiciels, mais on a la mythologie inverse de dire « les logiciels libres sont développés par des milliers de développeurs sur Internet ». Donc c'est quelque chose de très coopératif, etc. Ça, c'est une mythologie. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a très peu de projets de développement qui contiennent des centaines ou des milliers de développeurs. Il y en a, mais la majorité des programmes de logiciels libres sont développés par une poignée de développeurs. Mais une poignée de développeurs peuvent produire du très bon logiciel. Et la majeure partie de l'activité de développeur de logiciels libres est une activité individuelle. Parce que la majeure partie du développeur de logiciels libres, il développe du code. La partie collective, c'est finalement quand on met ensemble ce code qui vient de différents développeurs. On met la glue pour faire fonctionner l'ensemble du logiciel. Tel développeur a développé tel bout, tel autre développeur a développé tel bout, il faut faire la glue. Mais la majeure partie de l'activité d'un développeur de logiciels libres, c'est tout seul, dans son coin, dans son entreprise, chez lui. Et ensuite, les processus coopératifs interviennent au moment, effectivement, de la décision, par exemple, d'inclure tel code plutôt que tel autre, ou d'aller dans telle direction technique plutôt que tel autre. Et point essentiel, c'est que les décisions, je le répète, sont prises sur des critères techniques. On juge la qualité du code. On ne juge pas qui est en face. On dit souvent sur Internet, personne ne sait qu'on est un chien sur Internet. Mais c'est pareil, un développeur de logiciels libres, on ne sait pas à quoi il ressemble. Certains, on les connaît physiquement, on voit les photos, mais d'autres, on ne sait pas du tout qui sont. Ça se trouve, c'est des gens très timides qui, dans une entreprise, ne s'en sortiraient pas. Et là, en tant qu'indépendant sur Internet, avec la barrière qui saute, la barrière sociale directe, leur permet simplement de contribuer directement avec du code, eh bien, ils sont jugés sur leur production. Et ça, c'est essentiel quand on développe du logiciel, quand on base le choix technique sur du code et pas sur des critères autres, on fait toujours de la meilleure qualité. Pas forcément de la qualité optimale, le zéro bug, ça n'existe pas, mais au moins de la meilleure qualité. Alors, une autre spécificité, oui, c'est effectivement le fait que, contrairement à des développements traditionnels, on va dire, les gens ne sont pas physiquement au même endroit. C'est-à-dire qu'ils font effectivement, en fait, on pourrait dire quelque part qu'ils sont au même endroit, c'est-à-dire sur Internet. Mais ils ne travaillent pas forcément au même moment, avec les décalages horaires. Il y en a qui travaillent à 2 heures, d'autres la nuit. Ils ne travaillent vraiment pas du tout au même endroit. Il n'y a pas de coordination directe comme dans une entreprise, comme on serait dans un bureau. Alors, ça permet effectivement d'évoluer chacun à son rythme. Et ensuite, par des processus techniques, style forum de discussion, mailing list, le processus coopératif qui permet donc de faire la glue entre les différentes sources, enfin les différents codes produits, agit. Mais finalement, les gens travaillent quand ils veulent, en fait. Et ils travaillent avec plaisir aussi parce qu'ils savent que, et ça c'est un point essentiel dans le logiciel libre par rapport au logiciel propriétaire, c'est qu'il y a l'ego qui rentre en jeu. Quand on fait du logiciel libre, contrairement au logiciel propriétaire, on sait que le code va être lu par d'autres personnes, va être utilisé, va être réutilisé par des développeurs. Et donc on a une question d'ego, c'est qu'on n'a pas envie de passer pour un charlot quand on est développeur de logiciel libre. C'est un peu comme quand on écrit un texte ou un roman. Quand on écrit par exemple un roman pour soi-même ou des poèmes pour soi-même, bon, on écrit, on peut faire ce qu'on veut à la limite. Mais quand on sait qu'on va par exemple le publier, d'un coup, on se dit, là, c'est quelque chose un peu de moi que je mets, donc je vais faire attention. Ben, c'est pareil, quand on fait du logiciel libre, c'est un peu de soi qu'on met dans le code. Donc on fait attention à la façon dont on écrit le code, et on écrit le code différemment, parce que comme on sait qu'il va être réutilisé, on fait attention de le faire de façon la plus propre possible. Alors que quand vous faites du logiciel propriétaire ou du logiciel privé en interne dans une entreprise, vous savez que ça ne va pas être réutilisé, autre que par vous. En plus, vous avez des contraintes de temps souvent qui sont très importantes. Donc pour tenir le coup, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du code crade, qui fonctionne plus ou moins. Il y a plein de bugs sans doute, mais qui fonctionnent dans 80% des cas. Par contre, c'est du code crade. Et souvent du code crade, c'est du code que 6 mois plus tard, vous ne serez pas capable de relire vous-même. Quand vous faites du logiciel libre, vous faites un effort pour faire du code un peu plus gros, un peu plus beau, un peu plus documenté, de manière à ce qu'il soit relisible dans quelques mois, pas forcément par vous, mais par quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens d'entreprises qui comprennent l'intérêt de faire, d'organiser la diffusion de leur code interne en logiciel libre. C'est-à-dire que le code privé qui est développé en interne, pas du code propriétaire tel que Microsoft ou Apple le fait, mais du code produit par une entreprise utilisatrice, hein, se dit plutôt que laisser le code en interne, on va le diffuser en logiciel libre, non pas simplement pas par objectif qu'il soit réellement réutilisé, s'il est réutilisé tant mieux, mais surtout par objectif de contraindre les développeurs à faire du code un peu plus propre et un peu plus réutilisable. Et ça commence à arriver ce genre de choses. Donc j'insiste sur le fait que ça reste une activité individuelle qui rentre dans un cadre collectif. Et le cadre collectif implique des mécanismes effectivement de distribution de travail, ça c'est clair, mais qui sont finalement acceptés parce que la personne accepte le travail, pas parce qu'elle est forcée d'accepter le travail. Et la coordination de la production avec des choix techniques, on prend tel code ou tel autre. Donc ça implique des mécanismes organisateurs de la production. Et là-dessus, je vous renvoie sur une thèse donc, de Nicolas Julien qui a étudié un certain nombre de projets sur les mécanismes de régulation. Et je vais juste revenir très, très rapidement sur ces points-là et de toute façon, je vous donnerai, communiquerai la référence de la thèse de Nicolas Julien. Donc le premier mécanisme de contrôle, sans rentrer dans le détail, c'est le contrôle des productions individuelles, effectivement. Vérifier que la production du code qui a été faite par l'individu, elle fonctionne bien, elle s'intègre bien dans le processus. Point important, quand tout à l'heure Valérie disait qu'il n'y avait pas forcément de concurrence dans le logiciel libre, il y a une très forte concurrence dans le logiciel libre. Seulement, la concurrence, elle est ouverte. J'oserais presque dire que c'est une réelle concurrence non faussée. Parce qu'elle est vraiment ouverte. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence quand on doit implémenter tel produit, par exemple, il y a plusieurs développeurs qui peuvent se mettre sur le devant et sur la ligne de départ. Il y a une concurrence. Simplement, tout le monde voit les secrets de fabrication des autres. Et tout le monde peut s'en inspirer. Donc il y a une vraie concurrence. Et à la fin, effectivement, seules les meilleures solutions sont conservées. Parce que tout le monde a pu participer. Donc il y a une vraie concurrence, mais qui est ouverte, et sur laquelle, en fait, finalement, l'intérêt, c'est de produire le meilleur code, le plus rapide, le plus beau, et celui qui va finalement être intégré. Une autre spécificité, c'est la correction des erreurs. Il y a un temps énorme qui est passé dans la production de logiciels, dans la correction d'erreurs. C'est quelque chose qui prend un temps fou. Et si on compare chez le propriétaire et au logiciel libre, dans chez le propriétaire, les utilisateurs subissent les bugs, et c'est l'éditeur qui éventuellement les corrige de temps en temps. Dans le cas du logiciel libre, tout le monde peut potentiellement corriger des bugs. Et le fait qu'en fait, tout le monde ait l'accès au code source, le fait que ce soit diffusé sur Internet, il y a un effet de masse sur Internet. Aujourd'hui, il y a énormément de développeurs sur Internet. Je vais revenir sur le point sur Internet juste après. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui voient le code. Donc souvent, de façon simplement mathématique, le bug est vu et corrigé beaucoup plus rapidement que dans le cas d'un logiciel propriétaire, où tout simplement, on a un nombre fini de personnes qui peuvent avoir accès au code. Ce n'est pas une garantie qu'un bug sera forcément corrigé dans les deux jours ou même dans la semaine qui vient. C'est pas forcément une garantie. Simplement, il y a une probabilité meilleure de correction des bugs à ce niveau-là. Alors, autre spécificité, et là qui rejoint le droit d'auteur, c'est l'identification des auteurs de logiciels libres. Dans la plupart des projets logiciels libres, on est capable d'identifier les auteurs. Moi, si vous me parlez de produits logiciels propriétaires, je suis incapable de vous citer un auteur de logiciel propriétaire. C'est-à-dire, ils n'existent pas, les auteurs de logiciels propriétaires. Microsoft, on connaît Bill Gates, on connaît le CTO, etc. Mais les auteurs, ceux qui produisent réellement, on ne les connaît pas. Dans le cas du logiciel libre, on les connaît. Parce que c'est marqué dans le code. Moi, j'ai écrit telle chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle le droit moral, notamment dans le cadre du droit d'auteur. Il y a une vraie reconnaissance du travail qui est effectué par les auteurs de logiciels libres. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens participent aux logiciels libres, beaucoup d'informaticiens, parce qu'ils ont une vraie reconnaissance de leur travail. Et ça, c'est une spécificité qui est aussi liée à l'ego, ce que je disais tout à l'heure. Quand on met son nom sur un code, ben on essaye que le code soit bien écrit, qu'on soit content, parce que justement, on a mis son nom. Donc ensuite, chaque projet a ses principes régulateurs, plus ou moins organisés. Il y a des projets où c'est assez désorganisé, il y a des projets où c'est très structuré, où il y a des processus de diffusion, où vous avez même des constitutions. Par exemple, le projet Debian qui construit une distribution GNU Linux, c'est-à-dire un ensemble cohérent de logiciels, ben, ils ont une constitution, ils ont une élection d'un leader tous les ans, ils ont différents comités, un comité de vérification de la qualité des logiciels, un comité sécurité, etc. Donc c'est très 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 variable. Mais là, je vous renvoie sur la thèse de Nicolas Julien pour les détails. Maintenant, Internet. Le rôle d'Internet dans la diffusion de logiciels libres, dans la production. D'abord, première chose, la plupart des gens qui pensent n'avoir jamais utilisé de logiciel libre, à partir du moment où ils utilisent Internet, ils ont utilisé du logiciel libre. Pourquoi ? Parce que l'architecture technique d'Internet, c'est du logiciel libre. Si vous prenez les services sur Internet, ce qu'on appelle, par exemple, le courrier électronique, les serveurs web, les forums de discussion, les mailing lists, derrière, c'est des outils logiciels libres majoritairement qui font tourner Internet. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait neutre. Internet s'est développé sur le principe aussi, ce qu'on appelle des RFC, des Requests for Comments, de façon ouverte. C'est-à-dire que chacun pouvait contribuer à l'élaboration des normes. Mais le logiciel libre, c'est pareil. On développe de façon coopérative un logiciel. Donc l'architecture aujourd'hui logicielle d'Internet, c'est du logiciel libre. Et d'ailleurs, sans le logiciel libre, Internet n'existerait pas. Et on l'a vu il y a quelques années quand il y a eu un combat, enfin quand MSN, donc Microsoft Network, a essayé de faire croire qu'Internet ne fonctionnerait pas, on voit le résultat. C'est Internet qui a gagné. Bill Gates a très bien compris, vu qu'il a réécrit par exemple les routes du futur en disant dans la deuxième version, ben, Internet c'est magique, alors que dans la première version, Internet c'était pourri. Donc ça c'est la première chose, c'est dans le sens Internet basé sur du logiciel libre. Et puis dans la deuxième chose, c'est le rôle d'Internet dans l'organisation de la diffusion de logiciels libres. et même, je dirais, de tout contenu, en fait, à la limite. Premier point, c'est qu'Internet a rendu possible la coopération à grande échelle. Si on compare à il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, les développeurs de logiciels libres, c'était principalement des gens qui étaient dans les labos de recherche. Moi, quand j'ai commencé, pour avoir accès à Internet, il fallait que j'aille dans le laboratoire d'intelligence artificielle de mon université. Donc, il y avait quelques personnes qui pouvaient coopérer. Donc, les projets logiciels libres étaient finalement relativement petits. Avec l'arrivée d'Internet et le fait que de plus en plus de gens ont été connectés à Internet, il y a de plus en plus de développeurs qui ont été connectés à Internet, donc les projets de logiciels libres ont mis de plus en plus de place. Si aujourd'hui un projet comme Debian réunit 1000 personnes, c'est parce que ces 1000 personnes utilisent principalement Internet. Et d'ailleurs, on le voit bien que la plupart des développeurs aujourd'hui de logiciels libres sont plutôt dans le nord, plutôt que par rapport au sud, où dans le sud, il y a un problème d'infrastructure. On le voit, la répartition géographique. Donc Internet a rendu possible la coopération à ce niveau-là, à grande échelle, permettant à n'importe qui de pouvoir effectivement participer à un programme de logiciels libres. Et deuxième chose, ça a permis la diffusion beaucoup plus facile de logiciels, tout court, libre ou propriétaire à la limite, mais de logiciels. Et oui, parce qu'aujourd'hui, pour se procurer un logiciel libre par rapport à il y a 20 ans, c'est très simple. Il y a 20 ans, à l'époque, dans les années 80, au démarrage du logiciel libre, il fallait commander des bandes magnétiques aux États-Unis. On recevait une bande magnétique et on pouvait l'installer. Bon, c'était pas super pratique. Aujourd'hui, un logiciel libre, si vous cherchez un logiciel libre qui s'appelle Machin, vous allez sur machin.org et vous pouvez le télécharger. Et ça vous coûte rien. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que donc dans tout ce qui est le numérique, l'immatériel, ce qui coûte, c'est la production et c'est pas la diffusion. Parce qu'aujourd'hui, la diffusion, ça ne coûte plus rien. Donc voilà pourquoi Internet, aujourd'hui, est un vecteur très fort de diffusion du logiciel libre, c'est qu'il a rendu plus facile l'accès au logiciel libre, à la fois pour les utilisateurs et pour les développeurs, et qu'il a rendu plus facile la coopération des développeurs entre eux, vu qu'ils ont un outil qui leur permet de communiquer. Et c'est ça la grande révolution aujourd'hui d'Internet. Internet, c'est pas un outil qui met en commun des machines hétérogènes, c'est un objet qui met en commun des êtres humains hétérogènes, et qui leur permet de coopérer sans intermédiaire technique. Si on prend notre exemple sur les textes, par exemple, si vous voulez publier un texte aujourd'hui, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez passer par un éditeur, par exemple. Bon, mais passer par un éditeur, il y a un processus qui est intéressant, qui est la relecture, qui est la validation, mais en même temps, il y a certains éditeurs qui vont refuser votre texte parce qu'il n'est peut-être pas dans la ligne politique de la revue ou du livre, etc. Donc il y a une barrière. Par contre, sur Internet, vous pouvez mettre en ligne votre texte. Vous n'avez aucune contrainte. En tout cas, aujourd'hui, avant que les lois changent bientôt, mais aujourd'hui, en tout cas, vous n'avez aucune contrainte. Vous avez juste, vous mettez sur votre site Internet, les gens vont le récupérer, vont le lire et vous diffusez de la connaissance. Et c'est ce que permet aujourd'hui, finalement, Internet. C'est de mettre à disposition des gens de la connaissance, que ce soit du logiciel libre ou d'autres contenus. Ensuite, la question, c'est de savoir quelles sont les libertés que vous voulez donner, en fait, aux gens. Dans le cas du logiciel libre, on donne 4 libertés, l'utilisation, l'étude, la modification, la redistribution. C'est peut-être pas forcément les mêmes libertés qu'on veut mettre dans d'autres contenus, comme par exemple des textes ou des poèmes. On n'a peut-être pas forcément envie que les textes soient modifiés, parce que c'est notre, là, c'est vraiment notre âme, quelque part, qu'on met. Ou peut-être qu'on se dit, ça peut être modifié, parce que peu importe, c'est pas le problème. Donc ça, c'était sur le rôle d'Internet. Et moi, il y a une citation d'un copain à moi, qui s'appelle Laurent Chemla, qui est un vieux dinosaure d'Internet, et qui dit qu'en fait, Internet répond à un besoin évolutionniste d'une espèce dont la survie est basée sur le transfert du savoir. Le hasard a fait qu'Internet était disponible lorsque l'espèce en a eu besoin. La nécessité fait aujourd'hui qu'il doit être diffusé le plus largement possible. Et j'ajouterais protégé le plus largement possible. Car aujourd'hui, effectivement, il y a différentes lois, notamment le projet de loi antiterroriste, le projet de loi droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information, qui mettent en danger justement cette notion d'Internet permettant la diffusion de la connaissance et l'accès au savoir à tous. Alors, sur le texte, j'ai un petit point sur les modèles économiques, mais je ne vais pas vous le faire pour ne pas perdre de temps. Mais vous verrez un petit peu sur le fait qu'effectivement, le logiciel libre, ce n'est pas de la gratuité. Il y a un modèle économique derrière qui n'est pas forcément transposable à d'autres domaines. Il faut bien se comprendre que le modèle économique du logiciel libre n'est pas transposable à d'autres domaines. Et juste un dernier point en conclusion sur la motivation qui amène des individus à faire du logiciel libre. Il y a beaucoup de gens qui disent le logiciel libre, c'est des gens qui veulent sauver l'humanité, qui veulent transférer le savoir à tous. Il y a des gens, oui, pour qui c'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont d'autres motivations. Il y a des gens parce que c'est simplement techniquement très intéressant de faire du logiciel libre. Il y a des entreprises qui en font parce qu'elles peuvent récupérer du code logiciel libre, rajouter uniquement ce qu'elles ont besoin, donc économiquement c'est intéressant pour elles, et ça intéresse aussi le développeur original qui récupère leur développement. Il y a des tas de motivations pour faire du logiciel libre. Mais il y a une motivation essentielle, c'est qu'il n'y a aucune barrière pour contribuer, qu'elle soit technique ou légale. On n'a aucune barrière à contribuer. Et c'est ça la motivation de la plupart des gens qui font du logiciel libre. C'est qu'il n'y a aucune barrière, ni technique, ni légale. Et c'est pour ça que nous, on se bat effectivement contre des directives telles que les brevets logiciels ou d'autres projets de loi qui voudraient mettre des barrières à la coopération. Voilà, et en conclusion, et je ne vais pas reprendre une phrase, mais il y a Eben Moglen, en fait, qui est l'un des auteurs de la principale licence logiciel libre, donc la GPL, qui dit en fait que les gens font des choses dans la vie parce qu'ils peuvent le faire. Et donc finalement, produire du logiciel libre, c'est la même chose que faire de la musique, faire de l'art. Et simplement, ce que permet le logiciel libre, c'est qu'il encadre, il utilise le droit d'auteur pour encadrer effectivement les libertés et éventuellement les protéger. Et que le libre abolit finalement les barrières à l'expression de la créativité de chacun. Et ça qui est important aujourd'hui, c'est qu'on peut être créatif sans aucune limite grâce au logiciel libre et on peut toucher le maximum de monde par le logiciel libre. Et c'est aujourd'hui ce qui est remis en cause pour beaucoup de gens qui essayent dans un monde d'abondance, qui est le monde de l'immatériel, de créer de la rareté artificielle.